Vous écoutez France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, pour cette dernière émission avant la fête de Pâques, que notre Église célèbre cette année le 5 mai, nous parlerons de Nectaire d'Égine, un saint proche de nous dans le temps, dont la vie et l'enseignement constituent une référence pour grand nombre de fidèles orthodoxes, en particulier dans le monde hellénophone. Un livre paru en novembre 2011 aux éditions Lis et Parle réunit 35 des 50 lettres écrites par saint Nectaire entre 1904 et 1908 sous le titre « Lettres pastorales aumôniales d'Égine ». Pour en parler, nous recevons Yvan Koenig, pendant longtemps chargé de recherche au CNRS, actuel enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et au Centre d'études de Métro-Stanelloé. Yvan Koenig, disons d'abord quelques mots sur la vie de Saint-Nectaire.
D'abord, il faut dire que cette vie nous est connue par deux ouvrages qui sont maintenant accessibles en français. Nous avons l'ouvrage de Sotos Chondropoulos, Saint-Nectaire, le saint de notre siècle, et vous avez un ouvrage du père Ambroise Frontrier, Saint-Nectaire d'Égine, publié chez l'âge d'homme en 1993. Donc nous avons à notre disposition un matériel assez important pour la connaissance de ce grand saint de l'Église. Saint-Nectaire est né en 1846, en Thrace, c'est-à-dire pas très loin de Constantinople, au bord de la mer de Marmara, sous le nom d'Anastase Kephalas. En 1860, il se rend à Constantinople pour y travailler et il a pas mal de difficultés pour trouver un travail. Il est embauché dans un atelier de tabac. Finalement, ça va être un voisin qui va le prendre sous sa protection et qui va lui permettre de trouver une place d'enseignant à l'école du Saint-Sépulcre, où il va apprendre l'alphabet au tout petit. Et en même temps, ça va lui permettre de suivre des cours pour devenir instituteur. Il écrit le Trésor des Sages et il est doué d'une vive sensibilité religieuse. Il est attiré par la vie monastique et il manifeste à de nombreuses occasions son amour de l'Église. En 1866, il se rend sur l'île de Chios pour y être instituteur. Et il va développer là aussi un enseignement religieux, toujours conduit par son attirance pour la vie monastique. Il va finalement devenir moine en 1875 au monastère de Néamonie sous le nom de frère Lazare. En 1877, le métropolite de Chios va l'ordonner diacre sous le nom de Nectaire, que nous le connaissons actuellement. Et un bienfaiteur de Chios va lui permettre de faire des études de théologie à Athènes, où il va obtenir une licence de théologie. Ce bienfaiteur va l'envoyer aussi à Alexandrie, où il fera la rencontre du patriarche Sophron. En 1886, il est ordonné prêtre par le patriarche, dans la cathédrale Saint-Sabas. Le 23 août, il est élevé à la dignité d'archimandrite et chargé de la prédication, de la confession des fidèles, du secrétariat patriarcal, et il va même être nommé légat patriarcal au Caire, où il va s'occuper en particulier d'une église dédiée à Saint-Nicolas. Et en 1889, il est sacré évêque de la Pentapole. La Pentapole, c'est traditionnellement une région de Libye qui est rattachée au patriarcat d'Alexandrie. C'est à ce moment-là que vont éclater des intrigues et des complots contre lui. Il avait acquis une certaine importance, une certaine influence à Alexandrie, et cela a déchaîné beaucoup de jalousie. Malheureusement, ces intrigues et ces calomnies vont porter, et finalement, il va être congédié en 1890, et puis quasiment expulsé d'Égypte. Et il se rend alors à Athènes. Il réussira quand même, malgré les difficultés, à trouver un poste de prédicateur à Chalcis, puis en Thessalie, Et sa réputation va commencer à grandir en Grèce même. Il va même parvenir jusqu'au palais. Et on va le nommer directeur du séminaire Rhizarios à Athènes. Il va développer le cursus scolaire. Il écrit beaucoup, et ça c'est une de ses caractéristiques aussi. Et aussi, il a un goût très prononcé pour les compositions comme les compositions en l'honneur de la Mère de Dieu, Theotokaria, et les hymnes, dont un qui est particulièrement célèbre, que tout le monde maintenant connaît, puisqu'il est répandu dans tout le monde orthodoxe, c'est Agni Parthenē. À cette époque, il obtient l'autorisation du patriarcat œcuménique de se rendre sur la Sainte Montagne, où il va rester 3 mois. Et c'est toujours aussi à cette époque, c'est-à-dire nous sommes à la fin du XIXe siècle, qu'un groupe de jeunes filles va rechercher des conseils spirituels auprès de lui, dont une jeune fille aveugle, Chrysante. Et c'est de là que lui viendra probablement l'idée de fonder un monastère de Monial. Ce monastère de Monial, il va le réaliser finalement à Égine, au lieu dit la source vivifiante, et c'est le monastère de la Sainte Trinité qui est bien connu aujourd'hui dans le monde orthodoxe. En 1908, il démissionne de son poste et, accompagné de 3 amis, il va débarquer à Égine où il va rester pour les 12 dernières années de sa vie terrestre. Le monastère va se développer et va comprendre jusqu'à 50 de moniales et de novices autour de la mère Xenia. Saint Nectaire écrit beaucoup, il prêche, il confesse, il publie des choses. Il fait aussi des travaux manuels, il s'est toujours beaucoup occupé des jardins et il aide au financement et aux constructions du monastère. Mais il doit faire face, en 1918, à de nouvelles calomnies, issues de la mère d'une moniale. Et le métropolite d'Athènes, qui était hostile au monastère, va accorder foi à ces calomnies. En 1920, il va vers ses 74 ans. Il est épuisé, il est malade, il souffre beaucoup. Il a un cancer à la prostate et il est hospitalisé à Athènes, où il meurt le 8 novembre 1920. Et c'est là où peut-être se situe un moment particulier, c'est la vénération dont il est entouré. Son décès est l'occasion de miracles. Sa dépouille parfumée fut transportée à l'église de la Sainte Trinité du Pirée, puis au monastère de la Sainte Trinité, où il fut enterré par un moine, qui allait d'ailleurs plus tard peindre la première icône de lui. De son visage, de ses mains, suintait une huile parfumée. Et pendant 20 ans, le corps du saint va rester intact. Et le parfum qu'il dégage subsiste encore jusqu'à aujourd'hui. Donc sa sainteté s'exprime aussi plus particulièrement au moment de sa mort par la vénération aussi avec laquelle il est entouré.
On fait une pause maintenant. Après avoir donc raconté en bref sa vie, en rappelant que le lieu où il est mort, ce monastère, où il est enterré, pardon, ce monastère, constitue actuellement un pèlerinage extraordinaire. Il y a des milliers de personnes qui passent par là. Il y a une grande cathédrale immense qui contraste d'ailleurs fort avec le lieu où il a séjourné lui-même, en contrebas, qui est le grand lieu de pèlerinage. Mais évidemment, les gens peuvent aller également et visiter même sa cellule et l'endroit où il a vécu ces années. On va faire une pause donc en prière maintenant. Un texte qu'il a écrit lui-même, vous en avez parlé tout à l'heure, ce chant à la Vierge. Les paroles sont de lui et la musique est du moine Grégoire du monastère Simonos Petra. Et ce sont les moines de Simonos Petra qui chantent. la Mère de Dieu, composée par Saint Nectaire d'Égine et chantée par le chœur du monastère Simonos Petra, revient aux lettres pastorales écrites par Saint Nectaire entre 1904 et 1908, adressées au monial d'Égine. Cette édition, donc, avec ce courrier, cette correspondance, Saint Nectaire est encore à Athènes, il écrit à la petite communauté qu'il a constituée à Égine. Nous sommes en compagnie d'Yvon Koenig. Yvon Koenig, quels sont les thèmes principaux de cette correspondance?
Ce qui est très intéressant dans cette correspondance, c'est que nous voyons un père spirituel en acte. Et cette communauté est une petite communauté de moniales qui ont une santé un peu fragile. Il y a des problèmes aussi avec l'eau, l'approvisionnement d'eau. Donc il prend un grand soin d'elle, comme il le dit lui-même, n'est-ce pas ? Ça ne sert à rien de tomber malade. Il ne faut pas trop tendre l'arc, ce qui est d'ailleurs un apophthegme de Saint-Antoine, qui est « il ne faut pas trop tendre l'arc, sinon il se casse ». Donc il a beaucoup de sollicitude pour cette petite communauté. Sollicitude pour leur santé, ce qui est fondamental, sans laquelle il ne peut pas y avoir de vie spirituelle. Et sollicitude aussi pour leur vie spirituelle. Et ça, c'est un aspect aussi très important, c'est que son enseignement se situe dans la lignée de l'enseignement patristique. Et on retrouve chez lui des thèmes très importants de cette pensée. L'idée, par exemple, qui est fondamentale dans le monachisme, qu'il faut retrancher sa volonté propre, est au centre de toute sa pensée. Il dit même à un moment, l'unique et premier commandement, c'est que s'accomplisse non pas notre volonté, mais celle de Dieu. Et donc, il va donner un certain nombre de directives dans ce sens. Comment arriver à faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous ? Voilà.
C'est un saint, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est très proche de nous. Il est mort en 1920, cela ne fait même pas un siècle. Et il faut dire que sa sainteté a été reconnue en 1961 de manière solennelle. Et c'était le 20 avril 1961, c'est-à-dire hier, c'était l'anniversaire de cette reconnaissance officielle de la part du patriarcat œcuménique.
Et l'église d'Alexandrie a fait un acte de repentance aussi à cette occasion.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je me souviens que le patriarche Pierre, à l'époque patriarche d'Alexandrie, c'était, je crois, en 2001, a fait un voyage aussi à Égine pour vénérer la dépouille de Saint-Nectaire, après l'avoir congédié, comme vous avez dit. Et évidemment, il y avait eu un acte également du synode d'Alexandrie pour demander le pardon,
oui, absolument.
Là aussi, de manière solennelle. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce saint qui vit au 19e ou 20e siècle s'inscrit dans la grande tradition des pères des siècles précédents? D'habitude, quand on parle de sainteté, on parle des pères de l'Église, on monte beaucoup plus haut.
Il y a des constantes dans la vie spirituelle et on les retrouve dans l'enseignement de Saint Nectaire. Mais ce qui est absolument courant, c'est-à-dire qu'on retrouve chez tous les saints les mêmes constantes, mais souvent avec une coloration qui leur est propre. C'est en même temps, il y a chaque personnalité qui donne un petit peu une approche particulière. C'est ce qu'expliquait déjà Saint Jean Cassien. Aucune personne ne peut représenter le Christ à lui seul, mais on peut, au travers de différents saints ou de différentes personnes, retrouver cette personnalité du Christ.
Écoutons peut-être maintenant Saint Nectaire lui-même parler, ou plutôt écrire, à travers ce livre. Vous avez des extraits à nous donner, donc des lettres adressées au monial d'Égine.
Oui, mes frères, nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, lui qui, en tant que Père plein de bonté, est prêt à exaucer nos demandes en vue du salut et à nous donner la vie éternelle. Car son Fils unique nous a rachetés de la malédiction de la loi pour que nous obtenions l'adoption filiale. C'est pourquoi Paul écrit aux Galates : « La preuve que vous êtes bien des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et si tu es au fils, tu es aussi héritier de Dieu. » Le bien-aimé Jean, l'évangéliste, vierge et ami intime du Christ, écrit la même chose dans sa première épître catholique. « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu, quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 21-22. De ces paroles de l'évangéliste, l'ami intime du Seigneur, nous apprenons que ceux qui ont une bonne conscience ont aussi une confiance pleine d'audace envers Dieu, parce qu'ils gardent ses commandements et accomplissent ce qui lui plaît. Leur cœur ne les accuse ni de péché ni de transgression des commandements. Leur cœur est pur et leur esprit droit. C'est de cela que veut parler ici l'évangéliste. Par conséquent, nous apprenons que celui qui a le cœur pur, qui n'est pas accusé par son propre cœur, qui fait le bien et ce qui est agréable et parfait devant Dieu, qui observe exactement les commandements du Seigneur, celui-là possède l'assurance devant Dieu. Tout ce qu'il sollicite de Dieu, il le reçoit. L'homme au cœur bon, tel un fils aimé de Dieu, et dont le cœur est habité par l'esprit du Fils, jouit de l'assurance auprès de Dieu. C'est un thème extrêmement intéressant, c'est-à-dire que nous trouvons là le thème du cœur pur qui est aussi au centre de la pensée de nombreux pères, par exemple de Saint Jean Cassien. Parce que la pratique des commandements, c'est-à-dire la 16, purifie en quelque sorte la personne en lui procurant ce cœur pur. Cette ascèse est emmenée en collaboration, en liaison étroite avec la grâce de Dieu. Et de ce fait, la pureté du cœur, qui est un don, un charisme, permet aussi à la personne d'avoir cette familiarité avec Dieu, cette approche de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, ce thème qui est si important chez lui rejoint tout à fait les thèmes patristiques qui sont au centre de la pensée patristique. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir un cœur pur est un moment dans la vie spirituelle qui marque le passage d'une phase de la vie spirituelle qui est axée sur la pratique, comme il le dit, sur le respect des commandements, à une phase où la grâce s'exprime de façon plus forte et où la personne rentre dans la phase de la contemplation.
On va peut-être terminer avec un autre extrait tiré de ces lettres. Vous m'aviez parlé d'un extrait où il s'adresse aux jeunes, à ceux qui sont vraiment à l'épreuve au monastère et qui commencent leur vie monacale. Et quelle est son attitude envers ces jeunes personnes qui veulent s'engager dans une vie monastique ?
Il est absolument clair, n'est-ce pas, sur la vocation monastique. Pour la jeune fille au sujet de laquelle vous m'écrivez, je désirerais d'abord la voir et lui poser quelques questions. Surtout, est-elle enflammée par l'amour de Dieu ? Aime-t-elle de tout son cœur la prière ? Et en éprouve-t-elle un vif désir ? A-t-elle de l'abnégation ? A-t-elle la force de renoncer à sa volonté propre ? Est-elle prête à se soumettre à la volonté d'autrui ? Lui est-il possible d'accomplir ce qui s'oppose à sa volonté ? Et est-elle capable de ne pas contredire et d'accepter des ordres sans se plaindre ? Voilà donc des éléments qui sont absolument fondamentaux et qui sont au cœur aussi de toute la pensée patristique. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en quelque sorte dans la personne, il faut d'une certaine façon que la personne retranche sa volonté. Il y a un mouvement d'humilité qui est fondamental, qui est aussi le mouvement de la vie chrétienne. C'est-à-dire de la même manière que le Christ, le Logos, s'est humilié, s'est vidé de sa nature divine pour assumer la nature humaine, de la même manière, le chrétien se vide de son mauvais penchant, de l'homme, du vieil homme, comme dirait saint Paul, pour revêtir le nouvel homme.
Et donc, nous sommes à 15 jours de la fête de Pâques. Ces lectures, on constate qu'elles sont bonnes pour nous tous. Ce sont des homélies presque qu'il fait là. Il s'adresse à des moniales, à des personnes concrètes, certainement pour des circonstances qu'on ne connaît pas. Mais son message est un message qui s'adresse à tous les fidèles.
Absolument. Certaines lettres se présentent vraiment comme des petits traités.
On peut peut-être, si vous voulez, terminer avec un extrait court sur la prière, parce que c'est quelque chose qui serait très utile à nous tous à l'approche de la Pâque.
Oui, oui, c'est très intéressant. Par exemple, il explique, ce qui semble assez évident, c'est que la prière ne doit pas être formelle, mais qu'elle doit être une prière d'adoration profondément ressentie. Et il va très loin parce qu'il dit « Je ne veux pas que vous accomplissiez une prière formelle, mais une prière d'adoration. En effet, ce n'est pas la règle qui procure un contentement au cœur, mais l'adoration, ni la lecture de tous les canons, lesquels furent écrits pour les célébrations des saints, mais la qualité de la prière. Je désire que vous compreniez ce que je dis.
Très bien. Donc, il invite à chercher des textes de prière dans lesquels le chrétien prie vraiment.
Voilà.
Et laisser de côté des textes qu'on pourrait lire de manière un peu mécanique, par obligation, voilà. Par devoir.
Voilà.
Il insiste beaucoup sur le fait que la prière doit être une vraie prière de l'être, vraiment.
Voilà.
Et non pas une obligation de lecture qui est faite et qui, à elle seule, suffit à établir le contact entre le fidèle et Dieu.
Oui, par exemple, s'il y a des fidèles qui sont plus sensibles à la lecture des psaumes, qu'ils lisent les psaumes, si d'autres sont plus sensibles à la prière de Jésus, qu'ils disent la prière de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a faut avoir une certaine souplesse, je crois, dans la prière, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est observé dans certains monastères actuellement.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, une lecture que je conseille à tous, Saint-Nectaire d'Égine, lettre pastorale au monial d'Égine, traduite du grec par la moniale Nectaria du monastère Notre-Dame de toute protection, aux éditions Lié Parle. Yvan Koenig, merci beaucoup. Notre prochaine émission, dimanche 5 mai, dimanche de Pâques. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Marie Lepeintre. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.